Éric Berti, bonjour.
Bonjour.
C'est sous votre direction qu'est publié Français d'Australie 1788-1988. Une version anglaise avait été éditée en 2015 en Australie. 24 portraits de Français qui ont laissé une empreinte dans l'histoire de ce pays. Le premier des 24 portraits est bien entendu consacré à la Pérouse. Il accoste le 26 janvier 1788, soit, vous le précisez bien dans votre premier chapitre, 6 jours seulement après l'arrivée de la première flotte anglaise qui va fonder la colonie de Nouvelle-Galles du Sud. Cette première flotte va faire débarquer les premiers bagnards sur une terre qui avait été découverte, elle, en 1770. Alors, des esprits chagrins se plaisent à refaire l'histoire et si l'Australie était devenue une colonie française, mais on voit bien dans votre livre que ce n'était pas l'objet de l'expédition du comte de la Pérouse.
Oui, tout à fait. Le comte de la Pérouse était parti déjà depuis un an et demi pour un grand périple dans le Pacifique. En fait, il n'était pas prévu qu'il passe à Botany Bay. Et c'est Fleuriot, le ministre de la Marine de l'époque, qui lui avait demandé en septembre 1786 de passer à Botany Bay pour voir où en étaient les Anglais de leur installation. Donc d'une colonie pénitentiaire qui était prévue déjà depuis quelques mois. Et donc, comme les préparatifs de la première flotte britannique ont pris du temps, et puis que l'expédition de la Pérouse aussi, au moment où on lui a demandé, était du côté du Kamchatka, donc il y a eu une conjonction incroyable qui a stupéfait les Anglais, qui venaient juste de découvrir la veille le site extraordinaire de Port Jackson, qui est la baie de Sydney. Donc, est-ce que les Français allaient nous le prendre, Port Jackson? C'était la grande angoisse. Donc, la nuit même de l'arrivée de la Pérouse, les bateaux se sont extirpés de Botany Bay pour aller s'installer à Sydney Cove et fonder Sydney.
Et ce qu'il faut signaler, c'est que le comte La Pérouse était à la tête d'une expédition scientifique qui avait été décidée par Louis XVI.
Oui, tout à fait. Donc, c'était une expédition purement scientifique.
Donc voilà, on est en 1788, on passe en 1851 parce que c'est une date clé de l'histoire de l'Australie, mais aussi de la présence française. C'est la découverte des premiers gisements d'or, notamment dans le Victoria autour de Melbourne. Cette découverte est prometteuse. Il y a une figure importante de l'histoire de la présence française, c'est Antoine Fauchery, chercheur d'or, mais aussi photographe ami de Nadar. Et on peut dire aujourd'hui que ces clichés et ces écrits restent une référence pour l'histoire de l'Australie.
Oui, tout à fait. Donc Fauchery, il venait faire fortune, comme il y a eu à peu près 400 Français qui ont fait le voyage à ce moment-là. Et il est arrivé effectivement avec son appareil photo.
On voit aussi ce Melbourne du début de la ruée vers l'or, où tout est cher pour manger, pour se loger.
Exactement. Donc en fait, Fauchery s'est aperçu assez rapidement qu'il n'allait pas faire fortune comme chercheur d'or. Et donc, il a créé une espèce de bistrot, en fait, pour les expatriés, où ils pouvaient trouver un peu de nourriture, de boisson. Et
les expatriés non anglo-saxons, parce que c'est aussi ça, c'est un regard non anglo-saxon qu'il nous apporte sur cette histoire.
Tout à fait. Avec beaucoup d'humour. Donc, ces lettres d'un mineur en Australie qui ont été diffusées sous forme de journal dans la presse française ont été rassemblées après dans un petit recueil qu'on trouve actuellement sur le site Gallica, d'ailleurs, de la Bibliothèque nationale.
Des photos de mineurs et des photos aussi d'aborigènes.
Oui, donc il est arrivé avec un appareil, enfin une sorte d'agréotype, et il a pris des photos, effectivement, des portraits de groupes de mineurs qui sont devenus assez célèbres, et puis aussi des très belles photos d'aborigènes, car il est assez rapidement devenu ami avec Richard Daintree, qui était en fait un géologue, botaniste, explorateur aussi. Et ensemble, ils ont visité plusieurs réserves où vivaient les aborigènes, et aussi ils ont exploré le nord, notamment donc dans une région qui a donné lieu à un parc après du nom de Daintree. Et donc ils ont écrit un livre, les Sun Pictures. Donc ce sont en fait des portraits de paysages de l'époque qui sont tout à fait remarquables.
Dans le sillage d'Antoine Fauchery, aux mêmes dates, un couple très attachant, le comte Moreton de Chabriand, venu d'abord en 1851, lui aussi tenté de faire fortune dans les mines d'or, puis revenu en 1854 en tant que premier consul de France à Melbourne. Et il est alors accompagné de son épouse, Céleste Mogador, c'est son nom de scène, comédienne, danseuse, mais dont la réputation a précédé son arrivée à Melbourne. L'accueil sera glacial, mais on voit dans votre livre que Céleste Mogador saura se venger de cet accueil glacial.
Pourquoi elle a eu un accueil assez glacial à Melbourne? C'est que juste avant de partir, et avant même de savoir qu'elle allait se marier avec Lionel Chabrian Reperté en Australie, elle avait soumis à son éditeur les mémoires de Céleste Mogador, donc très scandaleux mémoires, qu'elle a essayé de bloquer lorsqu'elle a su qu'elle allait partir en Australie. Alors non seulement le livre n'a pas été bloqué, mais le livre l'a précédé en fait à Melbourne, donc elle a eu un accueil glacial. Et comme elle s'ennuyait ferme, à Melbourne, où elle n'était pas invitée, enfin, son mari avait évidemment ses activités diplomatiques, elle a tenu un journal et ce journal lui a inspiré un premier livre qu'elle a écrit juste à son retour à Paris, dans les années 1857, par là. Et il a fait l'objet d'une excellente critique d'Alexandre Dumas. Et donc, ce livre a eu un grand succès. Il a d'ailleurs, est devenu après une pièce de théâtre. Et comme vous dites, il a vraiment teinté la vision que les Français avaient de l'Australie à l'époque, d'un pays qui était certes en plein développement, en pleine effervescence à l'époque du fait de la ruée vers l'or, mais aussi une espèce de pays avec presque une mafia locale, enfin beaucoup de violence.
Oui, elle écrit par exemple qu'elle rencontrait des gens probablement très honnêtes, mais qui ressemblaient à de vrais bandits.
Oui, tout à fait.
Le comte de Chabrian, donc, il va mourir là-bas, à Melbourne, et les habitants de Melbourne vont lui organiser des funérailles. Beaucoup de monde à ces funérailles.
Oui, tout à fait. Toutes les autorités de Melbourne étaient là pour accompagner le cortège funèbre. À l'époque, son épouse n'était pas là, et c'est Antoine Fauchery qui va lui rapporter ses obsèques et joindre aussi les extraits de presse qui avaient été assez abondants à l'époque, donc sur cet événement.
Alors, on le voit depuis le début de cet entretien, beaucoup d'initiatives individuelles, mais aussi parfois des initiatives collectives ou commerciales. On peut parler notamment de la filière de la laine qui va quand même nourrir un pan de l'immigration française en Australie.
À partir des années 1880, les filatures du nord de la France, qui étaient beaucoup du côté de Tourcoing, de Roubaix, ont souhaité pouvoir établir des relations directes avec l'Australie au lieu d'acheter la laine via Londres, donc à un prix plus élevé. Et ils ont commencé, à partir de 1880, à envoyer des experts de la laine qui allaient voir les fermiers et qui achetaient directement des balles de laine qui étaient envoyées en France. Donc ce commerce a pris beaucoup d'essor. On était, dans les années 1850, sur 40 000 tonnes de laine, on est monté à plus de 300 000 avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la France a établi ce contact direct. La laine Mérinos, qui était produite en Australie, était très prisée. Et donc, ce sont plusieurs lainiers qui se sont installés et qui ont été à l'origine du premier développement économique significatif entre la France et l'Australie. D'ailleurs, Georges Pleyoust, dont Jacqueline Doyer, sa petite-fille, raconte l'histoire dans le livre, a été non seulement le premier lainier arrivé à Melbourne, puis à Sydney. Il s'est installé en Sydney à partir de 1890, mais il est devenu après aussi le premier président de la Chambre de commerce franco-australienne
qu'il va fonder.
Sydney. Voilà, qu'il va fonder avec l'aide du consul général Pierre Donnet et également le premier conseiller du commerce extérieur, une institution qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, ils ont été vraiment le berceau de ces relations économiques.
Deux mots sur Berthe Mouchette. Alors, c'est une artiste, peintre. Elle va à une conférence sur l'Australie à Paris. Elle est emballée. Elle part en Australie avec sa sœur et son mari. Et c'est elle, en 1890, qui va créer la première alliance française. Faut juste noter qu'un colon mauricien avait fait la même proposition 2 ans plus tôt. Paris avait dit « l'idée est bonne, mais pas avec cette personne ». Donc, Berthe Mouchette arrive et créer cette alliance.
Oui, tout à fait. Le consulat avait bien sûr soutenu cette initiative. Et on était cette année après la création de l'Alliance française de Paris. Ça montre
le dynamisme
de l'Australie, bien qu'on soit aux antipodes. Il y avait vraiment une volonté d'institutionnaliser la présence française déjà en Australie.
Comme par exemple le premier consul de Sydney en 1842, quand il arrive, c'est le premier consul étranger en Australie.
Tout à fait. Voilà.
Cette relation entre la France et l'Australie a connu des hauts et des bas. Vous citez dans votre ouvrage 3 événements qui ont attisé le sentiment anti-français.
Oui, il y a eu une période un peu délicate à la fin du XIXe siècle. Et c'est intéressant, c'est cette même décennie qui a vu la création de l'Alliance française, de la Chambre de commerce, aussi du Courrier australien, qui existe toujours aujourd'hui, a été aussi une période difficile des relations bilatérales. D'une part parce que la France venait de se réinstaller en Nouvelle-Calédonie, d'y installer un bagne à partir des années 1857, alors même que l'Australie venait de fermer les siens. Et donc il y a une grosse inquiétude de voir les Français arriver en Nouvelle-Calédonie et y installer des bagnards en disant « mais ils vont venir après polluer notre société ». Il y a eu l'affaire Dreyfus qui a aussi était une période difficile pour nos relations bilatérales parce que les informations arrivaient assez directement depuis Londres vers l'Australie sur tout ce qui se passait en France, mais avec un regard britannique qui était assez peu avenant à l'égard de la France.
Il y avait notamment eu le lancement d'une campagne de boycott de l'exposition universelle en France.
Oui, il y a eu effectivement en 1900 une demande de boycott après le procès de Rennes qui avait pas mal choqué les Anglais et les Australiens. Et puis, plus récemment, il y a eu les campagnes de reprise des essais nucléaires qui ont connu leur apothéose en 95. Et à chaque fois, donc ça a été une campagne très violente contre la France. Simplement, les Australiens oublient vite. Et on retrouvait l'intérêt pour la France, pour l'art français, pour la littérature française. Donc, et aussi pour le Tour de France, qui a un succès incroyable.
Ah oui, qui est diffusé à la télévision.
Voilà, en direct, à 14h du matin, vous pouvez voir le Tour de France. Mais pour la France, on est resté avec l'idée que l'Australie ne nous aime pas, ce qui est complètement faux. Mais pour nous, ça nous a beaucoup marqué, cette violence des campagnes anti-françaises à l'époque. Et donc, on est un peu resté avec cette idée-là jusqu'au contrat de sous-marin de 2016, où là, on dit « Ah ben non, finalement, on s'est trompé, ils nous aiment. »
Donc, c'est l'achat de 12 sous-marins qui, on se projetait sur une coopération en matière de défense sur les 50 prochaines années. Mais patatras, 2021,
oui, voilà. Donc,
avec fracas, cet accord a été annulé au profit d'une alliance entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, AUKUS. On se souvient de la colère à Paris.
Oui, ça a été un choc. Mais même les Australiens ont été choqués de la méthode, d'ailleurs, parce que très peu de gens étaient informés de ce contrat. Ça a été un gros choc, quand même, en France. Simplement, comme il y a eu les élections en 2020, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement
travailliste
à Canberra, et puis la réélection du président Macron, un nouveau gouvernement en France, on a pu repartir sur de nouvelles bases. Le ministre des Affaires étrangères vient de faire une excellente visite en Australie. Les liens sont retissés, on va créer une fondation culturelle entre les deux pays. Et pour nous, l'Australie reste un partenaire essentiel de l'Indo-Pacifique. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le devenir de nos relations bilatérales.
Éric Berti, je vous remercie.
Merci à vous.